sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La séance solennelle de rentrée de l'Académie des sciences morales et politiques s'est tenue sous la coupole de l'Institut de France le lundi 16 novembre 2009. Canal Académie l'a enregistrée pour vous et vous en propose la retransmission intégrale. Vous entendrez d'abord Jean-Claude Casanova qui la présidait puisqu'il est le président de l'Académie pour cette année 2009. Puis vous entendrez le vice-président Jean Ménard lire le palmarès 2009 des prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Et enfin, vous écouterez le discours du secrétaire perpétuel Michel Albert. Avec les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques et leurs invités, pénétrez avec nous sous la coupole.
Monsieur le ministre, messieurs les députés, madame le membre du Conseil constitutionnel, monsieur le président de chambre de la Cour des comptes, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président de l'Institut, monsieur le chancelier, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Conformément à son règlement, l'Académie se réunit chaque année pour rendre public le fruit de ses travaux. Permettez-moi auparavant, selon notre tradition, de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Notre compagnie a perdu cette année deux de ses membres les plus éminents, un grand juriste et un grand historien, Roland Drago et Pierre Chaunu. Par leurs œuvres, par l'influence qu'ils ont exercée, par leurs enseignements, ils ont illustré l'université française, notre académie et leur discipline. En nous perpétuant, nous perpétuerons leurs souvenirs et nous nous efforcerons de rester dignes de ce qu'ils nous ont apporté. Notre compagnie a vu avec tristesse aussi disparaître un de ses correspondants britanniques, Lord Dahrendorf, qui tenait une place majeure parmi les sociologues européens. Notre institution persévère par l'élection. Nous avons élu depuis l'an dernier M. Georges-Henri Soutou dans la section d'histoire, succédant à M. Raymond Barre, et M. André Vacheron, succédant à M. Georges Bonnefous. Il siège désormais parmi nous. L'année académique a été consacrée à l'université, la science et la recherche dans la France d'aujourd'hui. Mais rompant par deux fois cette série de communications, l'Académie a consacré l'une de ses séances à la réforme de la procédure pénale et en consacrera une autre en décembre prochain à la crise économique. Lors de la séance consacrée à la réforme de la procédure pénale, notre consoeur, Mme Delmas Marty, professeure au Collège de France, a démontré qu'une réforme d'ensemble de la procédure pénale restait nécessaire, mais une réforme qui donne à cette procédure la stabilité souhaitable. Cette réforme ne peut se réduire à la suppression du juge d'instruction. Elle exige pour s'accomplir que les garanties d'indépendance et d'impartialité du parquet soient renforcées, que le juge de l'enquête et des libertés dispose des moyens d'un contrôle effectif et pas simplement formel de l'enquête, qu'il soit reconnu à la défense de nouvelles prérogatives et enfin que les victimes disposent du pouvoir de s'adresser au juge. Nous ne doutons pas que le rapport de Mme Delmas Marty, suivi des réflexions des magistrats, des avocats et des professeurs de droit que nous avions invités, ainsi que les très riches observations complémentaires qu'ont formulées nos confrères, puissent aider le législateur dans la tâche qu'avec sa sagesse coutumière, il va désormais entreprendre. Ces séances au cours desquelles l'Académie aborde des sujets politiques d'actualité, comme elle l'avait fait les années précédentes à propos de la réforme constitutionnelle, ont pour but d'étudier en toute indépendance et avec sérénité les questions que les nécessités du temps posent au public. Il serait utile, je crois, que l'Académie poursuive dans cette voie et qu'au moins deux fois par an elle aborde de tels sujets en conviant à ces séances les personnalités les plus expertes. Les moyens modernes de communication et notamment les efforts de Canal Académie grâce à notre confrère Jean Cluzel permettront de faire connaître à un large public les analyses de nos membres et de nos invités, ceux-ci toujours choisis pour leurs compétences sur des sujets majeurs dans l'ordre politique national et international. Ces séances autoriseront l'Académie, si elle le juge nécessaire et quand elle le jugera, d'exprimer son opinion et de formuler ses avis en tant que corps et de participer ainsi pleinement au débat public qu'exige la démocratie et que recommande notre tradition. Il importe en effet, dans un régime démocratique, que les corps savants s'expriment en tant que tels, non point qu'ils s'attribuent le monopole du savoir ou qu'ils cèdent à la prétention de détenir une compétence exclusive, mais parce que le débat politique est toujours guetté par la démagogie, c'est-à-dire par le désir de plaire aux électeurs souverains et par les passions que fait naître la compétition pour le pouvoir. La presse, les universités, les corps savants, les académies, si elles respectent les finalités propres qui les distinguent des autres composantes de la société, peuvent exercer une magistrature intellectuelle qui contribuera à élever les controverses, à les dépassionner, à les éclairer autant qu'il est possible. Non point qu'il existe en politique un savoir absolu, mais parce que la vraie réflexion est indispensable à l'action. Comme disait Jean-Paul Sartre, qui n'était pas du genre à appartenir à une académie, s'engager, c'est clarifier les concepts. Il reprenait sans le savoir ce que disait notre confrère Royer Collard, s'adressant devant la Chambre des Pairs à un garde des Sceaux qui proposait une réforme et mettait en doute l'utilité des discussions intellectuelles. « Je connais comme un autre, disait Royer Collard, l'orgueil et les dangers de la théorie. Mais il y a aussi, à vouloir absolument s'en passer, la prétention excessivement orgueilleuse de n'être pas obligé de savoir ce qu'on dit quand on parle et ce qu'on fait quand on agit. » Cette formule plaisait à Guizot, notre refondateur. Il l'invoquait souvent et ici même, en 1854, il a rappelé que c'est la meilleure et la seule réponse qu'il convienne de faire aux personnes qui ne voient notre académie qu'avec défiance et déplaisir. Ajoutons, en amplifiant son propos, c'est la seule réponse qu'il convient de faire à tous ceux qui se méfient des discussions théoriques et controverses intellectuelles et qui invoquent l'opinion comme seul guide de l'action. Au cours de ces séances, nous avons confronté les réalités universitaires avec l'idée d'université, les tristes réalités avec l'excellence telle qu'on doit la rêver, telle qu'on peut la constater dans d'autres pays que le nôtre. Pour réfléchir à l'université, il faut en connaître l'histoire. Et nous avons entendu notre confrère André Vauchez, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur l'université médiévale vue d'aujourd'hui. Jean-Louis Quentin pour l'université de l'époque classique, Antoine Prou pour la période qui va de Napoléon à Edgar Faure, Madame Christine Musselin pour l'époque depuis 1968. Il fallait aussi connaître quelques-uns des grands établissements qui donnent à notre système un visage si particulier. Le Collège de France, avec notre confrère Michel Zinc de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, les grandes écoles d'ingénieurs, dont l'École polytechnique avec notre confrère Bertrand Collomb, les écoles de Rome et d'Athènes avec Michel Gras, l'École normale supérieure avec Madame Cantos-Perbert, l'Institut d'études politiques de Paris avec Richard Descoings. Nous devions aussi considérer les universités, nos grandes institutions de recherche, sous l'angle des grandes disciplines. La théologie, avec le révérend père Jean-Miguel Garrigue, le droit avec Stéphane Rials, l'économie avec Jean Tirole, les beaux-arts avec Yves Michaud, la médecine avec Philippe Even, les mathématiques et la physique théorique avec Jean-Pierre Bourguignon, la biologie avec notre confrère Philippe Kourinski. Enfin, il nous fallait réfléchir à l'organisation de notre système universitaire et de la recherche. Un ancien ministre, notre confrère Claude Allègre, et Madame Valérie Pécresse, actuelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous ont fait part de leurs expériences et de leurs visions. Étudier, c'est d'abord comparer. Nous avons comparé le système français au système américain avec Antoine Compagnon et au système suisse avec Robert Koch. Le problème central est évidemment celui de l'organisation et du gouvernement des universités. Nous l'avons étudié avec Yves Lichtenberger et notre confrère Jean-Robert Pitt, qui ont exercé l'un et l'autre des fonctions de président d'université. Enfin, Philippe Reynaud nous a montré qu'en France, on ne pouvait aborder le problème de l'université sans traiter celui du lycée, du baccalauréat et des classes préparatoires. La réflexion sur l'université française impose, avons-nous dit, d'en connaître l'histoire. Le passé ne fut pas toujours heureux, l'avenir reste incertain. Au XIIIe siècle, l'université de Paris était la plus célèbre d'Europe et du monde. Au XVIIIe siècle, les collèges de jésuites l'avaient emporté sur les collèges des arts et lettres des universités. Les universités végétaient. La science n'avait pas besoin d'université et Cuvier devait montrer que la science française jouait à la fin du XVIIIe siècle un rôle essentiel en Europe avec seulement quelques institutions. Les jésuites furent expulsés par Choiseul. Les universités furent dissoutes en 1792 et leurs biens, une grande partie de la rive gauche de Paris, par exemple, qui appartenait à l'université, furent transformés en biens nationaux. Un collège de l'ancienne université subsiste, celui dans lequel vous vous trouvez, le collège des Quatre Nations. Vous siégez dans sa chapelle, près du tombeau de son fondateur Mazarin. Il faudra attendre la Troisième République pour que la France reconstruise des palais universitaires. S'inspirant des collèges de jésuites, Napoléon créa le lycée, qui, avec les grandes écoles et les grands établissements et les facultés professionnelles, c'est-à-dire les facultés de droit et les facultés de médecine, définit le paysage universitaire français du 1er 19e siècle. Résumons à grands traits l'évolution de l'université française. La force du génie intellectuel et scientifique français à la fin du XVIIIe est incontestable, mais tout aussi incontestable la faiblesse des institutions destinées à développer la recherche et l'éducation supérieure. L'institution du baccalauréat va créer une coupure entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire, dont les conséquences seront considérables. Après la guerre de 1870, il est évident pour tous les Français, et notamment pour ceux qui avaient prévu notre déclin en matière universitaire, pour Renan ou pour d'autres, que le modèle universitaire qui prédominait serait le modèle allemand, c'est-à-dire une université qui formait des élites, mais qui se consacrait à la recherche scientifique et à la réflexion sur la politique sociale. Le modèle allemand influença le modèle britannique à la fin du XIXe siècle et il inspira les profondes réformes de l'université américaine au XXe siècle. Jusqu'à la Troisième République, aucune idée directrice ne mène l'université française dans l'ordre de la science et de l'organisation institutionnelle. La science survit et se développe grâce à deux institutions, l'école polytechnique et l'école normale supérieure, dans lesquelles elle s'est glissée par défaut. Le modèle français du début du XXe siècle est un compromis entre le libéralisme académique, liberté d'expression et de recherche, l'uniformité des facultés, la faible autonomie et la faible existence des universités, la centralisation administrative en termes de finances, de statut, de personnel, de délivrance de grades, de définition des programmes d'enseignement. Au lendemain de la guerre de 14-18, il est évident que les universités françaises n'ont pas de capacité de recherche. En 1920, Maurice Barrès entreprend sa campagne pour les laboratoires des universités et en 1939, le CNRS est créé. Il est évident aujourd'hui que le système le plus favorable à la recherche scientifique est un système décentralisé de grandes universités s'appuyant sur des financements diversifiés. Un tel système est plus efficace qu'un système centralisé à financement étatique prédominant. Quand un système universitaire accepte la majorité d'une classe d'âge et doit remplir trois fonctions, la sélection des élites, le développement de la recherche, l'éducation supérieure de la population, il est plus efficace s'il est différencié et décentralisé que s'il est indifférencié et centralisé. En veut-on une preuve ? Au début de la Troisième République, à cause de la défaite, la France prend conscience de la supériorité allemande. En 1945, après la guerre, elle fait le même constat par rapport à l'université américaine. Et le lamento de Pierre Aigrin, qui fut le dernier grand directeur de l'enseignement supérieur, d'André Veil, de Gilson ou de Raymond Aron, est un écho lointain au lamento de Renan, de Pasteur et de Claude Bernard à la fin du XIXe siècle. Les classements jouent un rôle analogue, mais moins tragique pour nous réveiller à la dure réalité. Quelqu'un que je connais il y a 10 ans avait remarqué qu'en ce qui concerne les prix Nobel, la France était désormais déclassée et que des pays plus petits qu'elle, comme la Suisse ou les Pays-Bas, faisaient mieux. On a souri de cette proposition. Prenons les deux derniers classements qui viennent d'être publiés. Je sais que les classements sont discutables, je sais qu'ils sont différents, mais en ce qui nous concerne, les résultats sont homogènes et douloureux. Le classement anglais, qui est préparé par le Times Higher Education, classe parmi les 200 premières universités, 4 universités françaises, 11 universités néerlandaises, 7 universités suisses. Le classement de Shanghai, qui a été le premier à apparaître dans les 200 premières universités, classe 7 universités françaises. Les 4 universités retenues par le Times sont l'École normale supérieure en 28e position, l'École polytechnique en 36e position, Paris 6 en 117e position, l'École normale supérieure de Lyon en 128e position. Je rappelle que la France a 60 millions d'habitants, que la Suisse a 7 millions d'habitants, que les Pays-Bas ont 16 millions d'habitants. Autrement dit, 23 millions d'habitants en Europe ont 18 universités classées parmi les 200 premières et 60 millions d'habitants en Europe ont 4 universités classées parmi les 200 premières. Bien sûr, il faut modérer notre tristesse et calmer notre douleur. Ce classement n'est pas un classement potentiel du potentiel scientifique, c'est-à-dire du nombre de savants, des découvertes qu'ils ont faites et de leurs possibilités. Néanmoins, il est un indicateur inquiétant si l'on admet que l'organisation, plus que la dépense et plus que le nombre des hommes, est le facteur décisif du progrès scientifique. Je voudrais mentionner trois traits particuliers qui tiennent à notre histoire et qui nous obligent à une organisation différente. La distinction entre les grandes écoles et les universités. La relation particulière du lycée avec les universités, notamment des classes préparatoires. Le découpage des universités en 1971 et 72, qui a obéi à tout sauf à la raison scientifique. Ces trois raisons font que les choses sont compliquées, mais elles ne sont pas décisives. À partir de ce qui existe, des réformes sont possibles, à condition que les défauts soient clairement perçus. Quels sont les dysfonctionnements de nos universités ? Elles ont un taux d'échec élevé dans les filières générales des universités non sélectives. Elles ont une absence de formation générale après le baccalauréat et avant les études professionnelles spécifiques, comme le droit, l'économie ou la médecine. Elles ont une sélectivité excessive dans les filières professionnelles courtes qui avaient été créées dans un tout autre but par M. Laurent, les IUT et les brevets de techniciens supérieurs. Elles n'ont pas suffisamment de ressources destinées à la recherche. Il existe une confiance excessive dans l'allocation des ressources entre ceux qui décident et ceux qui bénéficient de ces ressources. Enfin, elles ne sont pas suffisamment autonomes et elles n'ont pas la gouvernance adéquate qui permet une bonne gestion. Que l'on me permette de revenir un instant sur ces deux derniers points. Pour que les universités soient réellement autonomes et non pas formellement, il faut qu'elles puissent choisir leurs étudiants, recruter leurs professeurs, délivrer leurs diplômes, posséder leurs immeubles, leurs laboratoires, leurs bibliothèques, percevoir des droits d'inscription et constituer des fondations dont elles géreraient les revenus. Elles n'ont pas aujourd'hui la possibilité de faire tout cela. À partir du moment où elles prélèveront des droits d'inscription, il est évident que parallèlement, l'État doit fournir aux étudiants démunis et méritants le moyen de poursuivre leurs études. Il faut en second lieu que les universités soient gouvernées. Le mode d'élection des présidents d'université actuel et le mode de désignation des conseils n'est pas satisfaisant. Le scrutin de liste bloqué n'est pas un modèle adapté aux choix intellectuels et personnels. Il introduit une politisation qui est préjudiciable au fonctionnement des universités. Les présidents actuels n'ont ni la légitimité intellectuelle des anciens doyens, ni la légitimité fonctionnelle des présidents américains des universités. Il se peut que le temps et des réformes prudentes améliorent cette situation. On peut tout au moins l'espérer. Voilà quelques-unes des réflexions auxquelles nous nous sommes livrés et que nous avons entendues. Elles méritent bien sûr d'être pesées, discutées. Souvent au cours de nos séances, devant les difficultés, devant les comparaisons avec les universités allemandes au XIXe siècle, avec les universités américaines aujourd'hui, le regret, l'inquiétude, l'angoisse nous ont saisis. Je prie que l'on ne lise pas dans cette tristesse, que l'on n'entende pas dans mes propos le souci d'une corporation blessée. Si beaucoup d'entre nous sommes avant tout les fils, les serviteurs de l'alma mater, ce n'est pas pour elle comme institution ou comme corps que nous pleurons. Si nous pleurons, c'est pour la science et pour la patrie. Nous pleurons pour la science si une organisation insuffisante détourne les jeunes savants de la plus noble tâche, la recherche de la vérité. Nous pleurons pour la patrie parce que notre pays ne représente que 0,7% de la population mondiale. Il n'est qu'un fragment de l'Europe qui n'est elle-même qu'un fragment du monde. La science est le seul moyen par lequel nous pourrions tenir un rang supérieur à notre dimension. C'est vrai pour la France, comme c'est vrai pour l'Europe. Il suffirait pour cela d'avoir le courage et le discernement nécessaires. Tacite, pour éveiller les vieux Romains qui cédaient au népotisme, à la corruption et à la démagogie, pour les réveiller, invoquer une Germanie imaginaire peut-être. Il disait des Germains, ils choisissent les rois parmi les nobles ex nobilitate, comme nous choisissons les ministres parmi les parlementaires. Mais, disait Tacite, ils choisissent ceux qui dirigent ex virtute, c'est-à-dire pour le courage et pour le discernement. Puissent les princes qui nous gouvernent et qui gouvernent en France l'université toujours penser que la vertu n'est pas décernée par l'opinion, elle est fille du courage et du discernement. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Madame le Secrétaire perpétuel de l'Académie française et toutes les personnalités qui nous sont venues nombreuses nous honorer aujourd'hui, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est en cette circonstance solennelle et dans ce cadre prestigieux que l'Académie rend public chaque année, conformément à ses statuts, le palmarès des prix, bourses et médailles qu'elle attribue. Par la distribution de ces prix, l'Académie remplit l'une des missions de service public que lui a confiée la nation, suivre, conformément aux lois et arrêtés du directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République, loi du 3 Brumaire en 4. Ce qui est traduit en langage plus moderne par le titre 4 de la loi du 18 avril 2006, les académies ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. Toutefois, elles ne le font que grâce à la générosité de celles et de ceux qui lui accordent leur confiance pour perpétuer leur mémoire ou leur action, et qui, dans cette intention, ont décidé d'abriter en son sein des fondations. Certains de ces fondateurs sont parmi nous aujourd'hui, physiquement ou en pensée. Permettez-moi de leur adresser collectivement mes salutations et de me tourner plus spécialement vers deux jeunes femmes, deux sœurs, Anne Mignotte et Kitty Mignotte-Saumont, qui ont souhaité agir pour le bien public en créant à l'Académie une fonction abritée. Il s'agit de la Fondation Balafen, dont le but est d'aider, dans la perspective du développement durable, à la définition de critères susceptibles de mesurer l'impact social des entreprises, comme les émissions de gaz carbonique permettent de mesurer leur impact environnemental. Pour ce faire, les fondatrices ont décidé de susciter et d'aider des travaux universitaires. Le premier bénéficiaire de cette aide est Gaëtan Saout, qui commence à l'Université de Lille 1 une thèse intitulée « La responsabilité sociale des entreprises analyse une transition institutionnelle en cours ». Sachez, cher monsieur, que l'Académie suivra avec le plus grand intérêt de vos travaux pour lesquels elle forme tous ses vœux. Bien. Le public m'a devancé. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever et je vous demande de l'applaudir rapidement puisque c'est déjà fait. Aujourd'hui et pour nous tous, le jour des lauréats et de la célébration de leurs mérites. Je vais donc maintenant lire l'ensemble du palmarès en commençant par les grands prix décernés par notre compagnie. Je vais donc me livrer à cet exercice périlleux. Je remercie les lauréats de bien vouloir se lever quand je leur indiquerai, de même que je remercie par avance chacun de vous de bien vouloir les applaudir. Ici, il y a des applaudissements individuels, comme vous le verrez. Les grands prix de l'Académie. À tout seigneur, tout honneur. Je commencerai par le grand prix Édouard Bonnefous, dont nous saluons ici la riche mémoire. Ou plutôt, devrais-je dire, les grands prix Édouard Bonnefous. Ils sont en effet, depuis l'an dernier, au nombre de 5. Le premier de ces prix est distribué par la Fondation Édouard Bonnefous de l'Académie, créée en 1997. Il vise à récompenser alternativement une œuvre qui aura contribué à alléger le poids de l'État sur les citoyens et une œuvre consacrée à la défense de l'homme et de son environnement. Notez bien les deux objectifs. Il est attribué cette année à Jacques Mistral pour son ouvrage « La troisième révolution américaine », publié à Paris en 2008. Les prix suivants sont attribués par la Fondation Édouard Bonnefous de l'Institut. Le premier sur proposition d'un jury que j'ai l'honneur de présider, les trois autres sur proposition des trois sections de notre Académie. Sur proposition du jury, le Grand Prix est attribué à la branche française de la Ligue européenne de coopération économique, présidée par Philippe Jürgensen. Je le salue à titre personnel. Trois prix ont été de plus attribués sur proposition des sections de notre Académie. Sur proposition de la section de morale et sociologie, un prix est décerné au Forum Chine-Europe pour son action en faveur du dialogue entre les peuples. Sur proposition de la section économie politique, statistiques et finances, un prix est décerné à Nicolas Bavret pour l'ensemble de son œuvre. Enfin, sur proposition de la section... Merci. Enfin, sur proposition de la section Histoire et Géographie, un prix est décerné à Jean-Paul Blais, également pour l'ensemble de son œuvre. Pour terminer cette section, les candidats voudront bien se lever et je vous demande de les applaudir. Les deux grands prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, une des gloires de notre Académie, sont attribués respectivement à Bernard Fèvre d'Arcier et au Musée des arts asiatiques Guimet, représenté par son directeur Jacques Giès, pour leur action en faveur de la connaissance de la culture taïwanaise en France et en Europe. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever et de les applaudir. Merci d'avoir si vite compris. Le prix Louis Cros, qui récompense chaque année des travaux savants ou des témoignages dans le domaine de l'éducation, est partagé à part égale entre Bruno Robe et Céline Labrune-Badiane pour la publication de leurs thèses respectives, dont voici les titres. Du mythe de l'autorité naturelle à l'autorité éducative de l'enseignant, des savoirs à construire entre représentation et action, soutenu le 2 juillet 2007 à Paris 10 Nanterre. Deuxième, processus de scolarisation en Casamance, rythme et logique, 1860-1960, soutenu le 8 décembre 2008 à l'Université de Paris 7. Mais ça aurait pu être aussi Dakar. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever et je vous demande de les applaudir. Un grand prix d'économie est distribué grâce à la générosité de la baronne Maruxia Zirilli-Marimo, dont je salue la présence et l'exemplaire fidélité à notre Académie, ainsi qu'à la mémoire de son époux, qui fut un de nos correspondants. Le prix Zirilli-Marimo est attribué à Jacques Le Sourne pour l'ensemble de son œuvre et plus particulièrement pour son dernier ouvrage, Les crises et le XXIe siècle, Paris 2009. Vous voyez, mon relais n'était pas complet. Depuis l'an dernier, un second Grand Prix est attribué sur proposition de la section économie. Il s'agit du prix Olivier Le Cerf, créé par notre confrère Bertrand Collomb et par la société Lafarge, avec le soutien de L'Oréal et de Saint-Gobain. Ce prix est attribué cette année à Xavier Fontanet, PDG d'Essilor, pour ses conceptions humanistes du management et leur mise en œuvre, dans le droit fil de la pensée d'Olivier Le Cerf, résumée par la formule « mettre l'homme au cœur de l'entreprise ». Il ne reste plus qu'un candidat à présenter et que vous voudrez bien applaudir. Trois grands prix juridiques ont été attribués. Le prix Charles Aubert de droit revient à Valérie Parisot pour la publication de sa thèse de doctorat « Les conflits internes des lois ». Il doit y en avoir beaucoup. Le prix Soukri-Cardaï est partagé. Est partagé à parts égales entre trois docteurs pour la publication de leur thèse, Christophe Kaizel-Lambrunaz, essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Catherine Sévely-Fournier, essai sur l'acte juridique extinctif en droit privé français, Adélie Pommade, la société civile et le droit de l'environnement. Le prix Francis Durieux est attribué au professeur Jean-Paul Pancracio pour son ouvrage « Droit et institutions diplomatiques » à Paris 2008. Alors que les lauréats veuillent bien se lever, et je vous prie de les applaudir. Enfin, deux grands prix d'histoire ont été attribués. Le prix Charles Aubert Histoire à Steve Kaplan pour l'ensemble de son œuvre et le prix Madeleine Lorrain-Portemère à Lucien Belli pour son ouvrage « La France au XVIIe siècle, puissance de l'État, contrôle de la société » au PUF en 2009. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever et je demande de le reposer. J'en viens maintenant aux autres prix distribués sur proposition des sections, commissions ou jurys ad hoc. Et désormais, les applaudissements seront collectifs. Prix attribué sur proposition de la section de philosophie. Le prix Grammaticatis Kiss Neumann est attribué à Philippe Reynaud, le juge et le philosophe, Paris 2008. Le prix Danian Bouveret est attribué à Louis Van Delft, Les moralistes, une apologie, Paris 2008. Le prix Bordin est attribué à Michel Le Guerne, Nicolas Bauzé, grammairien philosophe, Paris 2009. Le prix L'Odyssée de Pénamrom est attribué à Éric Dumaître, Les raisons d'un engouement, le structuralisme et la crise de la culture scolaire, Paris 2008. Le prix Louis Liard est attribué à Massimo Buccianini, Galilée et Kepler, philosophie, cosmologie et théologie à l'époque de la Contre-Réforme, Paris 2008. Le prix Jegner est attribué à Pierre Caille, Morale et chaos, principe d'un agir sans fondement, 2008. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever et je vous demande de les applaudir. Voici maintenant les prix attribués sur proposition de la section de morale et sociologie. Le prix Stassard est attribué à Michael Feussel, la privation de l'intime, Paris 2008. Le prix Joseph Saillé est attribué à Hélène Leuillet, aux sources du terrorisme, de la petite guerre aux attentats suicides, 2009. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. Et je viens les applaudir. Prix suivant, attribué sur proposition de la section de législation, droit public et jurisprudence. Le prix Maurice Travers est attribué à la thèse de Jean Sagot du Vauroux, Aspect fonctionnel de l'universalisation, études de droit international privé. Le prix Beria Saint-Prix est attribué à Régine Bautier, le secret intérieur des ménages et les regards de la justice. C'est prometteur. Les relations personnelles entre époux en Belgique et en France au XIXe siècle. Bruxelles, 2008. Le prix Koenigswater est attribué à Véronique Bertil, langue régionale ou minoritaire et constitution, France, Espagne et Italie, Bruxelles, 2008. Je prie encore les lauréats de bien vouloir se lever et je vous prie de les applaudir. Viennent les prix attribués sur proposition de la section d'économie politique, statistique et finances. Le prix Limantour est attribué à Pierre Calam, essai sur l'économie, Paris 2009. Le prix Rossi est attribué à Bertrand Pointeau, l'entreprise expliquée aux ados, 2008. Il y a fort à faire. Le prix Joseph Dutens est attribué à Philippe Gardet, négociant et marchand de Bordeaux, Paris 2009. Le prix Léon Fauché est attribué à Jean-Pierre Chamoux pour la direction de l'ouvrage « Comment retrouver la croissance et emploi, modernité » de Jean Fourastier, encore en l'honneur d'un de nos grands anciens, Paris 2008. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. On les applaudit. Prix attribué sur proposition de la section Histoire et géographie. Le prix Jean Saint-Denis est attribué à Marc Michel, essai sur la colonisation positive, affrontement et accommodement en Afrique noire, 1830-1930, Paris 2009. Le prix Mauguin est attribué à François Pascal pour l'édition des Mémoires sur la Convention et le Directoire et des Mémoires d'exil d'Antoine Claire Thibaudeau, Paris 2008. Le prix Gabriel Monod est attribué à Mathieu Bréjon de Lavernier, la Société de Saint-Vincent de Paul au XIXe siècle, un fleuron du catholicisme social, Paris 2008. Le prix Marcel Flach est attribué à Mgr Joseph Doré pour la direction du monumental ouvrage La cathédrale de Strasbourg, publié à Strasbourg en 2008. Le prix Joseph Dutheil est attribué à Robert Belot et Gilbert Karpmann. L'affaire suisse, la résistance a-t-elle trahi De Gaulle ? Paris 2008. Le prix Gustave Chey d'Estanges est attribué à Agnès Walsh, Histoire de l'adultère, 16e-19e siècle. Paris 2008. Le prix Hercule Catenacci est attribué à Françoise Théillou pour l'ouvrage Paris, dôme sacré du grand siècle, illustré par les photographies de Jean-Pierre Delagarde, édition du patrimoine, Centre des monuments historiques, 2008. Bon, voilà, c'est dôme. Le prix Paul-Michel Perret est attribué à Jean Lopez, Kursk, les 40 jours qui ont ruiné la Wehrmacht, Paris, 2008. Prix de Juan de Luis, attribué à Marie-Pierre Rey, Alexandre Ier, Paris 2009. Je prie les lauréats de bien vouloir se lever et je vous demande de les applaudir. Prix attribué sur proposition de la section générale. Le prix Louis Marin est attribué à Alain Dejamet, Paul-Louis Courier, Paris 2009. Il n'y a qu'un lauréat à se lever et à être applaudi. Maintenant, je passe au prix attribué sur proposition des commissions mixtes. Les commissions mixtes sont composées de représentants de chacune des 6 sections de l'Académie. Elles attribuent les prix dont la définition excède les compétences de chacune d'entre elles prises séparément. Le prix Daniel Strasser a été créé par la princesse Radzivill, que je salue, en mémoire de son époux. Il est attribué à Claude Goasguen, député maire du 16e arrondissement de Paris, ancien ministre, pour l'ensemble de sa carrière, à l'occasion du dépôt de la proposition de loi sur la reconnaissance des emblèmes européens. Le prix Luc Durand-Réville est attribué à Sylvie Brunel, à qui profite le développement durable, à Paris 2008. Le prix Émile Girardot est attribué à André Babot, Richesse du monde, Paris 2009. Le prix de la Fondation Araxis Torossian est attribué à Jérôme Grondeux pour son mémoire d'habilitation « Raison politique et religion au XIXe siècle », le projet de Victor Cousin. Mémoire soutenue le 18 novembre 2008 à l'Université Paris IV Sorbonne. Le prix Henri Texier II est attribué à l'association Sauvegarde et découverte du patrimoine du château de Fiche à Verniolle, en Ariège. Le prix Henri Texier I est attribué à Sébastien Milleville pour sa thèse sur les restrictions au droit de disposer, soutenue le 24 novembre 2008 à l'Université Panthéon-Assas Paris II. Le prix Torlé est attribué à Jocelyne Daclia, Lingua Franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, à Arles, 2008. Le prix Lucien de Rénac est attribué à Frédéric Piantoni, L'enjeu migratoire en Guyane française, une géographie politique, Matoury, c'est là-bas, 2009. Le prix Jean Finot est attribué à Fred Pocher, Blessure intime, blessure sociale, de la plainte à la solidarité, Paris 2008. Le prix Paul Leroy-Beaulieu est attribué à Michel Rouche pour son livre d'entretien avec Benoît de Sagazan, Petite histoire du couple et de la sexualité, Tours 2008. Le prix Corbet est attribué à Nicolas Vambremersch de la démocratie numérique, Paris 2008. Le prix Ernest Lémonon est attribué à Pierre-Jean Luisard, Comment est né l'Irak moderne, Paris 2009. Le prix Maloué est attribué à Paul Hériot en marque d'estime publique. Je prie les lauréats de bien vouloir se lever et je vous demande de les applaudir. Enfin, voici les prix attribués sur proposition de jury particulier ou du bureau de l'Académie. Le prix national de criminologie est attribué à Olivier Renaudy, la préfecture de police, Paris 2008. Le prix Edmond Fréville-Pierre Mesmer est attribué à Michel Goya, Irak, les armées du chaos, Paris 2009. Le prix Pierre-Georges Castex de littérature française est attribué à Jacques Lebrun, Le pouvoir d'abdiquer, essai sur la déchéance volontaire. Paris de Gallimard 2009, un bel exemple de sommet de la puissance atteint par le renoncement au pouvoir. Le prix René Laurentin Pro Christo est attribué au père Denis Dupont-Fauville, Saint-Hilaire de Poitiers, théologien de la communion, Rome 2008. Le prix Bernard d'Estrémo est attribué à Léonore Pérus, membre de l'équipe de France d'escrime, et futur diplômé du Master Communication de Sciences Po Paris. Bernard d'Estremo, ancien académicien, qui était à la fois un grand sportif et un grand chercheur. Le prix Valmy, doté par le Cercle Esprit de Défense, est attribué à Wolfgang Balzer, président de l'Association pour la promotion du musée de la garnison de Mayence, pour la création des salles militaires françaises dans ce musée. Ce choix met en lumière la profondeur du lien d'amitié franco-allemand. C'est également le cas du prix suivant. En effet, le prix du Lac est attribué au caporal-chef Samuel Linert, Bundeswehr, pour un acte de courage. Je remercie l'importante délégation allemande qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui pour la remise de ces deux prix. Les lauréats voudront bien se lever. Je vous demande de les applaudir. Les autres mentions sont celles de prix de l'Institut de France, attribués sur proposition de l'Académie. Le prix Claude Berthaud est attribué à Jean-Marie Mayer, Léon Gambetta, La Patrie et la République, Paris 2008. Le prix de la Fondation du Chanoine Delpech est attribué à Bernard Sicher, L'être et le divin, Paris 2009. Le prix Germaine André Lequeux est attribué à Clément Chauvet, à Terre, à Paris 2, membre du Centre de recherche en droit administratif, préparant une thèse sur le pouvoir hiérarchique. Les lauréats voudront bien se lever et je vous demande de les applaudir. Enfin, sans distribuer de prix, deux fondations abritées par l'Académie mènent des actions chacune dans leur domaine. La Fondation pour l'avenir de la relation, créée André Lévesque, subventionne des actions ou des recherches qui se situent dans la continuité de l'œuvre du fondateur, à savoir la création de projets à partenaires multiples, potentiellement en conflit, et l'étude des valeurs communes à l'humanité. Deuxième, la Fondation pour le progrès en éducation, créée par Sylvaine Marandon, repère et aide les expériences innovantes en matière de pédagogie. Une aide a été apportée cette année à l'association Petit Jardin des Écoliers. L'Académie distribue enfin des aides sociales, conformément aux vœux de généreux philanthropes, sur les revenus en particulier des fondations d'Aigremont, Schlumberger et Carnot. Je renouvelle au nom de tous mes confrères mes félicitations aux lauréats de l'année 2008 et je les remercie de contribuer chacun à la place qui est la sienne, au progrès de la connaissance, au mieux-être de tous, ainsi qu'à la gloire de notre nation et de notre culture. Monsieur le Président vous remettra médailles et diplômes à l'issue de la séance dans la bibliothèque de l'Institut. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est à Monsieur le Secrétaire perpétuel.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Messieurs les députés, Madame le membre du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de Chambre de la Cour des comptes, Monsieur le Président de l'Institut, Monsieur le Chancelier, Madame et Messieurs les Secrétaires perpétuels, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs. Notre Vice-président Jean Ménard vient de proclamer un impressionnant palmarès. À tous ceux dont le nom a retenti sous cette coupole et que notre Académie a jugé digne d'être ornée de lauriers, puisque c'est le sens du mot « lauréat », je serais tenté de dire « l'Académie au présent, c'est vous ». Mais dans ce palmarès de plus de 60 prix, un prix n'a pas été cité, qui est pourtant l'un des plus éminents à nos yeux. On se rassure, il ne s'agit pas d'un oubli de la part de Jean Ménard, puisque ce prix n'est pas stricto sensu un prix de l'Académie, même si sa création est un véritable événement dans notre histoire académique. Je veux parler du prix Claude Lévi-Strauss, premier grand prix national de sciences humaines et sociales, créé par Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui en a confié l'organisation et la gestion à notre Académie. Elle en fit l'annonce le 28 novembre dernier. C'était le jour du centenaire du plus glorieux des anthropologues français, notre confrère de l'Académie française et doyen de l'Institut, nous a quittés il y a 2 semaines à peine, peu avant d'avoir accompli la 101e année de son âge, laissant à l'admiration du jeune siècle mieux qu'une œuvre à prolonger, un exemple à méditer. Le prix qui porte son nom perpétuera désormais sa mémoire. Ce prix Claude Lévi-Strauss concerne l'ensemble des sciences humaines et sociales, de la philosophie à l'économie, des humanités au droit, en passant par la sociologie, la linguistique, la psychologie, l'histoire et bien sûr l'anthropologie. Il couronne un chercheur français en activité, de réputation internationale, dont l'œuvre est novatrice par son effort méthodologique et dont les travaux, cela mérite d'être souligné, illustrent la complémentarité des disciplines. Il est attribué par un jury international où siègent trois de nos confrères, sous la présidence de l'un d'entre eux, Raymond Boudon. Ce choix s'imposait tant l'œuvre de Raymond Boudon est un appel constant au respect de la rigueur scientifique, porteuse de l'idée que nous nous faisons des sciences humaines et sociales au sein de notre académie. La première cérémonie de remise de ce prix annuel a eu lieu le 29 juin dernier au Palais de l'Institut, en présence de Madame la Ministre, qui a prononcé le discours de félicitations du lauréat, Dan Sperber, anthropologue et linguiste qui s'est illustré dans les sciences cognitives. Le prix sera remis désormais chaque année dans le cadre de notre académie. J'ai tenu à m'attarder un moment sur le Grand Prix Claude Lévi-Strauss, non seulement en raison des circonstances, mais parce que la création de ce prix invite à la réflexion sur notre académie. D'abord, sur sa vocation originale dans le domaine des sciences humaines et sociales, ensuite sur son identité dont la pluridisciplinarité est plus que jamais le caractère majeur, et enfin sur la manière dont les activités actuelles de l'Académie illustrent à la fois cette vocation et cette identité. Bien que mon allocution s'intitule « L'Académie au présent », je commencerai par une brève incursion dans notre histoire afin de rappeler les intentions des fondateurs de notre compagnie. Elle a été créée en 1795, soit un siècle et demi après l'Académie française. Mais elle s'inscrit dans une continuité, une longue histoire, qui commence avec la République des lettres formée à la Renaissance pour aboutir à cette dénomination d'Académie des sciences morales et politiques. Science morale, voilà un bien grand mot, et pour certains presque un gros mot. Comment la Révolution aurait fondé une Académie de l'ordre moral et politique, un club de moralisateurs? Nous ne sommes rien de tout cela, puisque l'adjectif moral signifie ici, je cite le dictionnaire de l'Académie française, qui concerne l'étude des mœurs. Dès l'origine, étaient associées aux humanités, à la philosophie et à l'histoire, les disciplines plus récemment constituées, telles que l'économie politique et la science sociale. L'Académie a ensuite intégré les sciences politiques, la sociologie, la démographie, la statistique, au fur et à mesure de leur apparition dans le paysage intellectuel. Elle n'a jamais cherché à imposer, ni même à définir, une théorie unique et générale d'explication de l'histoire et de la société. Elle reste en cela fidèle à son exigence de pluralisme intellectuel, à sa défiance vis-à-vis des idéologies, mais aussi à sa vocation d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics. Aujourd'hui encore, le pouvoir politique ne nous désigne pas. L'opinion publique ne nous élit pas, la pensée dominante, quelle qu'elle soit, ne s'impose jamais à nous comme telle. Il faut croire que dès le début, l'État avait à craindre la liberté de pensée à laquelle était vouée notre compagnie, puisque Bonaparte en décida la suppression dès 1803, 5 ans après la création de l'Académie, et qu'il fallut attendre le gouvernement libéral de Guizot en 1832, pour que les sciences morales et politiques retrouvent leur place à l'Institut. Guizot pouvait alors dire, en une formule toujours actuelle, « C'est le privilège des gouvernements libres de résister aux épreuves dont s'effraie le pouvoir absolu. Près de deux siècles plus tard, l'exigence est toujours la même, composée de membres élus en raison de leur expérience et de leur aptitude à prendre du recul. L'Académie des sciences morales et politiques a précisément pour mission de distinguer les idées éprouvées des pensées chimériques et les repères solides des références aventureuses. Dans le passé, les sciences humaines et sociales ont trop souvent dérivé vers une littérature de grands mots, voire de slogans, censés tenir lieu de théories, en préservant sa vocation. C'est son utilité sociale elle-même que l'Académie sauvegarde. Or, cette utilité sociale, si elle est parfois méconnue, me paraît plus grande encore dans le présent qu'elle ne l'était dans le passé. Au cours du XXe siècle, de grandes théories se sont affrontées pour donner une explication globale de la vie sociale, un fondement unique à l'apparente diversité de l'histoire humaine. Mais aujourd'hui, les grands systèmes d'explication du monde ont perdu de leur autorité. Dans un contexte intellectuel d'éclatement de la pensée, l'Académie des sciences morales et politiques constitue un exemple unique d'unité dans la diversité. Mais elle l'est surtout par son caractère pluridisciplinaire. Dans la France d'aujourd'hui, par la force des choses, les universités ont leurs spécialités, de plus en plus nombreuses. Les centres de recherche, les laboratoires, les séminaires, les congrès, les colloques ne font le plus souvent se rencontrer que des spécialistes occupés des mêmes questions. Cette spécialisation croissante n'est pas moins avérée dans les structures de conseil dont l'État s'est récemment entouré. La multiplication de ces structures de conseil montre les besoins croissants qu'ont les pouvoirs publics de recourir aux sciences humaines et sociales. L'État veut pouvoir compter sur les conseils de ses propres experts, mais dans ce domaine, comme dans celui des universités et de la recherche, il n'existerait pas d'institution pivot, d'organe de référence susceptible de faire office de comité des sages en matière de sciences humaines et sociales, si ce n'était précisément le rôle dévolu à l'Académie des sciences morales et politiques. Guizot disait encore, je le cite, « Les académies groupent, sans leur imposer aucun joug, aucune unité factice, des hommes qui, sans ce lien, resteraient absolument étrangers les uns aux autres. » La composition de l'Académie des sciences morales et politiques réalise cette intention au plus haut point. Elle possède une réelle singularité en raison de la diversité des disciplines qu'elle réunit, de la multiplicité des parcours et des compétences de ses membres. Où voit-on ? L'historien et le métaphysicien, l'homme d'État et le grammairien, où voit-on ? Le démographe et le sociologue, le géographe et le banquier, où voit-on ? L'industriel et l'ambassadeur, le juriste et le journaliste, siéger côte à côte, participer aux mêmes travaux, collaborer à la même œuvre, partager une même convivialité. Ce compagnonnage construit l'identité même de notre compagnie. Il est la meilleure illustration de l'esprit académique. Notre confrère Jean Béchler a dit à ce sujet « Une académie ne peut pas être composée de spécialistes de la même spécialité. » Une académie est un espace généraliste, réunissant des spécialistes, et elle pourrait bien être la seule à présenter cet avantage. Il ne s'agit pas de contester la spécialisation, qui est bonne en elle-même, mais il s'agit de ne pas s'en contenter, en cherchant à éclairer un seul domaine scientifique précis, on prend le risque d'obscurcir la vue d'ensemble. Or, les sciences morales et politiques ne peuvent se passer d'une vue d'ensemble de l'homme et de la société. Un exemple tout récent et particulièrement frappant montre que cette idée est mieux reconnue aujourd'hui. Il y a un mois, le prix Nobel d'économie a été attribué à deux chercheurs américains, l'économiste Oliver Williamson, et double innovation à une femme, c'était la première fois, une femme, Elinor Ostrom, qui, elle, n'est pas économiste et qui a reçu le prix Nobel d'économie. L'Académie Nobel les a récompensés pour leurs travaux pluridisciplinaires dans des domaines qui relèvent des sciences politiques, de la sociologie, de la psychologie et du droit. De même, bon nombre de nos confrères se caractérisent par la polyvalence de leurs talents. L'un d'entre eux n'est-il pas à la fois le grand maître de l'histoire napoléonienne, l'auteur d'un dictionnaire du roman policier comptant 2353 entrées, et l'auteur de deux dictionnaires du cinéma, dont le dernier qui vient d'être publié est intitulé « Dictionnaire amoureux du cinéma ». Enfin, je m'en voudrais d'omettre, à l'actif de ce même confrère, une étude sur les origines de la bande dessinée, intitulée « Les pieds nickelés », et grâce à laquelle j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de faire entrer pour la première fois sous la coupole Croquignol, Ribouledingue et Filochard. Au-delà des personnes qui la composent, c'est collectivement que notre Académie est vouée à la pluridisciplinarité, et c'est ce caractère qui a été particulièrement mis en valeur lors du bicentenaire de l'Institut en 1995, lorsque le président de la République a qualifié notre Académie d'irremplaçable conseillère des pouvoirs publics. À cet égard, depuis un an, l'Académie a mené à bien un travail exemplaire sur la question si actuelle des autorités administratives indépendantes, lesquelles prolifèrent, comme vous savez, et cela grâce à un groupe de travail animé par notre regretté confrère Roland Drago, qui a pu achever son œuvre juste avant son décès. De son côté, François Théré dirige un groupe de 15 juristes de haut niveau qui a remis au garde des Sceaux en décembre dernier un projet de réforme du droit des contrats. Le groupe François Théré poursuit ses travaux et fait désormais porter ses efforts sur le droit de la responsabilité. Un nouveau rapport sera achevé d'ici l'été 2010. Il sera lui aussi remis à la chancellerie et pourrait constituer la base d'un développement législatif. Dans le même sens, l'Académie avait accepté en 2005 une mission confiée par les pouvoirs publics sur la laïcité. Notre confrère André Damien a réussi à donner à ce centenaire officiel de la loi de 1905 une sérénité sans précédent sur cette question toujours si sensible. Cette commémoration, réalisée à la demande des plus hautes autorités de l'État, illustre la modernité des pratiques administratives. En dehors de ces travaux de conseil auprès du pouvoir politique, réalisés soit à la demande du gouvernement, soit à notre propre initiative, les activités de l'Académie se caractérisent par leur grande diversité. En septembre dernier, un colloque sur Calvin et la langue française, organisé par notre compagnie, s'est tenu au palais de l'Institut sous la présidence de Jean Ménard. À l'occasion du 5e centenaire de la naissance du réformateur, qui fut aussi un grand écrivain, il a paru opportun d'aborder son œuvre sous un angle non confessionnel, celui du rôle qu'elle a joué dans l'émergence de la langue française moderne. Comment ne pas rappeler ici la place immense qu'occupait Pierre Chaunu dans l'historiographie de la Réforme ? Notre regretté confrère, disparu le mois dernier, avait su croiser les angles d'analyse, se plaçant au carrefour de l'histoire religieuse, sociale, économique, et faisant ainsi de son œuvre une puissante leçon de méthode. Dans un tout autre domaine, l'Académie a organisé, à l'occasion de la remise du premier prix de la Fondation Olivier Le Cerf, fondée par notre confrère Bertrand Collomb, une journée d'études sur le management humaniste qui fut l'occasion d'une réflexion de fond sur la fonction de directeur des relations humaines dans les grandes entreprises. Par ailleurs, nos liens avec l'Extrême-Orient, noués depuis plus d'une décennie à l'initiative de Pierre Messmer, se poursuivent sous diverses formes et avec divers interlocuteurs grâce à l'engagement de notre confrère sinologue, Marianne Bastide-Bruguière, et de plusieurs autres confrères. C'est ainsi que depuis 1996, dans le cadre de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, l'Académie récompense et encourage par des prix importants chercheurs et acteurs culturels qui permettent aux Européens de découvrir ou de mieux comprendre ce qui se passe à l'autre bout de l'Eurasie. Pour autant, ce regard focalisé sur la riche culture de Taïwan, dont je salue ici le représentant, n'est pas exclusif des évolutions formidables qui affectent l'immense Chine continentale. C'est pourquoi l'Académie s'est associée avec intérêt au dialogue lancé par le Forum France-Chine, Chine-Europe, dont je salue le président, qui est cette année l'un de nos lauréats. L'Académie a aussi accueilli un atelier sur l'évolution des repères éthiques en Chine et en Europe, et en juillet dernier, elle a été partenaire d'un atelier sur le nationalisme chinois qui s'est tenu à Hong Kong. De même, et dans un tout autre domaine, nous avons accueilli une réunion des présidents de tous les comités techniques du Codex Alimentarius, commission internationale créée par la FAO et l'OMS en vue d'élaborer des normes alimentaires. Les progrès de la gouvernance mondiale sont, chacun le sait, un aspect essentiel de l'œuvre de notre confrère Mireille Delmas-Marty, mais aussi dans le domaine financier et monétaire de Jacques Delarosière. À la demande de la Commission européenne, un groupe d'experts européens de haut niveau placé sous sa présidence a été constitué en octobre 2008. Son rapport portant sur la régulation financière en Europe a été déposé dès février 2009. On prête à Balzac ce mot cruel et désenchanté. Un rapport est parfois un apport et toujours un report. Eh bien, Jacques Delarosière vient de lui apporter un démenti spectaculaire. En effet, le rapport Larosière est un exemple presque unique de mise en œuvre rapide et opérationnelle de ses propositions. Ainsi a-t-il été suivi par d'importantes décisions de principe du G20 d'avril 2009 d'abord, du Conseil européen ensuite. Les contributions de nos confrères aux grands chantiers internationaux tels que le G20 ou dans un autre domaine, celui du droit, au jury international du nouveau Grand Prix Onassis font honneur à notre compagnie. C'est en restant ainsi fidèle à sa vocation et à son identité que l'Académie se tourne vers l'avenir. À 3 semaines du sommet mondial de Copenhague sur le réchauffement climatique, l'exemple le plus actuel en est assurément l'ouvrage fondateur d'Emmanuel Leroy-Ladurie sur l'histoire du climat. Qui peut par ailleurs nier que notre compagnie était en avance sur son temps lorsque, dès 2001, elle publiait un rapport de Gabriel de Broglie sur le droit d'auteur et Internet, sujet alors absolument neuf, qu'il fallut débroussailler et qui aujourd'hui pourrait remplir des bibliothèques entières. Qui peut nier que notre Académie avait vu juste lorsqu'en 2001, elle aborda sous la présidence de Thierry de Montbrial le grand thème de la France du nouveau siècle? Et lorsqu'en 2002, elle choisit pour thème annuel, sous la présidence de Marcel Boiteux, le développement durable. Ou encore, lorsqu'en 2007, elle entreprenait une étude critique de l'enseignement de l'économie au lycée. Faut-il rappeler qu'il y a 2 ans, l'Académie, prolongeant l'œuvre portée par Yvon Gattaz avec sa grande association Jeunesse et Entreprise, avait pris l'initiative de publier un livre intitulé « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse », dont la préface était cosignée par nos deux regrettés confrères, les anciens premiers ministres Raymond Barre et Pierre Messmer. Depuis lors, et en dépit de nombreuses dispositions nouvelles adoptées en faveur de l'emploi des jeunes, la crise a encore aggravé leur situation. Cette réflexion sur l'avenir de la jeunesse a trouvé une suite logique dans le cycle académique organisé tout au long de l'année 2009 par notre président Jean-Claude Casanova sur le thème de l'université dont il nous a présenté tout à l'heure la brillante synthèse. Mesdames, messieurs, chers confrères, l'Académie a pour elle l'expertise et l'expérience, la pérennité et la capacité de garder la distance nécessaire sur les sujets les plus brûlants. Mais chacun le sait, elle partage avec toutes les institutions vouées à une réflexion de fond la difficulté de prendre place dans la société de l'information. Et pourtant, dans bien des domaines sensibles, l'opinion règne sans être suffisamment informée. C'est ainsi que les contraintes de la médiatisation favorisent l'instantané au détriment de la réflexion, l'émotion au détriment de la raison, l'exagération au détriment de la mesure. Devant cette réalité, rien ne sert de s'enfermer dans une attitude obsidionale ou résignée. Il nous faut admettre que le travail académique ne peut trouver sa place dans la société de l'information que si nous créons nos propres médias. C'est tout le mérite de mon prédécesseur, Jean Cluzel, de l'avoir compris et d'avoir fondé, animé et promu la première radio académique sur Internet, Canal Académie. Je cite Jean Cluzel. « Les cinq académies du Quai de Conti détiennent les meilleurs gisements de savoir » et sans arrêt en découvre de nouveaux. Canal Académie est un espace de liberté dont les académiciens et leurs invités peuvent se servir en ne s'alignant sur aucune mode. La voix des académiciens, c'est aussi l'une des voix de la France qui maintenant se fait entendre dans le monde entier. Dans le monde entier. Ainsi, en 2008, Canal Académie a compté 7,5 millions de visites et près de 3 millions de téléchargements. Après 4 ans, le succès est donc au rendez-vous. Notre reconnaissance l'avait précédé. Je me réjouis de cette occasion de l'exprimer à nouveau dans cette séance solennelle. Notre Académie est un observatoire, non pas au sens astronomique, comme si on voulait placer sous cette coupole un gigantesque télescope. Elle n'est vouée à scruter ni l'infiniment grand ni l'infiniment petit, mais à observer l'homme, la cité, le monde dans lequel nous vivons. Telle est l'Académie au présent. Par le nombre et la qualité de ses lauréats, par la diversité de ses engagements et par la disponibilité de ses membres, l'Académie au présent perpétue sa vocation en vue de l'avenir avec une ambition rajeunie et avec cette confiance dont nous savons qu'elle est comme la sève du progrès des sociétés.
Vous venez d'entendre la retransmission intégrale de la cérémonie de rentrée de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2009.